juste 11h sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et avec moi en studio, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Manon Ferrier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Manon Ferrier, vous êtes doctorante. Voilà, vous travaillez au laboratoire BBV à l'Université de Tours, biomolécules et biotechnologie végétale. C'est à la faculté des sciences et techniques. Voilà, sur le site Gramont. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire, Radio Étudiante oblige, quel a été votre parcours universitaire jusqu'à devenir thésarde?
Alors oui, donc après un bac scientifique, j'ai fait une licence biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Bordeaux. Et j'ai enchaîné avec un master en biologie agrosciences avec une spécialisation en plantes à valeur santé et biomolécules d'intérêt. Durant lequel ça m'a permis en fait de voir un petit peu le développement donc de produits à base d'extraits de plantes, par exemple les compléments alimentaires, mais aussi donc la phytochimie dans son domaine le plus large, donc l'étude des extraits de plantes surtout. Et à la suite donc de mon master, j'ai fait un stage dans ce domaine-là, la phytochimie, et ensuite donc une thèse toujours en phytochimie et un petit peu de chimie analytique aussi.
Est-ce que vous voudriez nous expliquer quelles sont les différences entre phytochimie et les autres disciplines que vous avez mentionnées?
Donc en fait, la phytochimie, c'est très très large. Donc on fait une étude... c'est les plantes, et notamment donc dans mon cas, l'étude des molécules qui peuvent être donc contenues dans les plantes et qui pourraient avoir un effet, dans mon cas pour la thèse, c'est un effet plutôt au niveau de la peau pour une visée cosmétique, mais ça peut aussi être des compléments alimentaires, donc des effets antioxydants, ce genre de choses. Ça peut aussi être en pharmacie pour trouver des nouvelles molécules qui auraient des effets, peu importe, anticancéreux par exemple, comme on fait à BBV.
Et alors pourquoi cet intérêt pour les plantes, justement?
Enfin, c'est venu assez naturellement. Dès le début de mes études, je me suis toujours plus intéressée aux plantes, à la biologie végétale dans son ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai fait la licence avec une option là-dedans et que je suis partie donc en master directement aussi là-dedans. Et j'ai toujours plus ou moins hésité entre la biologie, la chimie. Donc là, je suis un petit peu à la frontière entre les deux. Donc j'aime bien.
Et donc, vous êtes actuellement doctorante dans ce laboratoire de l'Université de Tours, hein, on le rappelle, biomolécules et biotechnologie végétale. Alors, comment on arrive sur ce projet de thèse? Donc, vous avez envie de faire une thèse. Comment vous avez trouvé cette offre de thèse? Comment ça se passe? On postule? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, moi, j'ai un cas pas particulier, mais un peu atypique. Je ne voulais pas forcément faire de thèse au départ. Mais je suis tombée sur l'annonce de cette thèse, sur le projet de thèse, avec le sujet, les compétences que je pouvais développer, les techniques qu'on me permettait aussi d'approfondir, que j'avais déjà vues en master. Et donc je me suis dit, pourquoi pas postuler, parce que j'étais quand même à la recherche d'un travail après mes études. Ça s'est pas fait directement après la sortie du master. Et donc moi, j'ai postulé comme on postule un travail, avec un CV, lettre de motivation. J'ai eu un entretien et j'ai été prise. Après, il y a des thèses qui sont soumises en fait à des bourses par des écoles doctorales. Donc on peut être amené à passer des concours dans ces moments-là. Donc d'ailleurs, c'est un petit peu la période des concours là actuellement. Moi, j'ai pas du tout passé de concours vu que je ne pensais pas faire de thèse après mon master. Donc c'est un peu... par hasard, et c'est l'expérience surtout qui m'a fait me dire je vais le faire, je vais postuler et j'ai envie de le faire, plutôt que absolument faire une thèse pour avoir un doctorat.
Voilà, et donc vous parlez de compétences et de techniques que vous avez vues dans cette offre de thèse qui vous dit « Ah chouette, je vais pouvoir développer ça », est-ce que vous voulez nous dire de quoi il s'agissait?
Donc en fait, l'intitulé de mon projet de recherche... Donc c'est la caractérisation métabolomique d'extraits de plantes pour une visée cosmétique. Donc en fait, c'est des mots un peu barbares, mais c'est quand même simple. En fait, l'idée globale, c'est d'étudier des extraits de plantes, peu importe des parties de plantes particulières, etc., dans une visée cosmétique. Et des extraits de plantes, donc c'est des extraits qui sont complexes, contrairement à ce qu'on a un petit peu l'habitude de voir, en tout cas jusqu'à maintenant, en cosmétique, des principes actifs qui contiennent une seule molécule. Dans le cadre d'extraits de plantes, on contient des dizaines, voire des centaines parfois, et pour rentrer dans la formulation de cosmétiques ou même de compléments alimentaires, de médicaments en phytothérapie, il faut connaître quand même la composition des extraits. Donc c'est là en fait qu'on appelle la caractérisation des molécules contenues dans l'extrait, donc qu'on appelle aussi des métabolites, d'où le nom métabolomique. Donc en fait, c'est étudier ces extraits. Donc on a différentes méthodes de laboratoire pour les étudier et aussi étudier leurs effets. Donc pour nous, c'était l'effet cosmétique, donc l'effet sur la peau qui nous intéressait. Donc ça me permettait en fait d'approfondir mes connaissances et ma technique sur donc des techniques justement qu'on a au laboratoire qui nous permettent d'étudier la composition de ces extraits-là.
Alors justement, vous avez vous expliquez à visée cosmétique. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? C'est quoi la différence avec à visée médicale, disons, ou pharmaceutique, et est-ce que ça ne concerne que la peau?
Alors, le développement d'un extrait de plante ou en tout cas d'une formulation pour des cosmétiques, donc on va évidemment rechercher en effet sur des cibles que l'on peut avoir au niveau de la peau. Alors on a l'effet antioxydant par exemple qui est assez recherché, donc c'est aussi un effet qu'on peut retrouver qui peut être intéressant en complément alimentaire. Donc ça va un petit peu de pair parfois, le développement d'extraits pour ces deux visées-là. Et après, donc différents aussi effets sur la peau, au niveau de la structure de la peau, éviter par exemple la dégradation importante de collagène, d'élastine, ce genre de choses. Et après, la différence entre cosmétique, pharmaceutique par exemple, donc déjà ça va être le type d'actif, parce que pour le coup en pharmacie, souvent on cherche une molécule qui va avoir un effet particulier. Par exemple, une molécule anticancéreuse, c'est rarement un extrait dans son ensemble qui a cette capacité-là. Et puis, les doses ne sont pas les mêmes aussi. Entre, par exemple, donc, si on reste sur les mêmes formes du coup de prise entre un médicament et un complément alimentaire sous forme de gélules, de comprimés, peu importe, ce ne sont pas les mêmes doses, voilà, qui sont autorisées. Aussi, c'est pas la même réglementation, donc c'est pas le même type de développement. Le développement d'un médicament est quand même beaucoup plus lourd que le développement d'un cosmétique ou d'un complément alimentaire.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour qu'on vous imagine en train de travailler dans ce laboratoire BBV? Déjà, il est comment ce laboratoire? Donc, on sait qu'il est à Grandmont, mais qui travaille dedans avec vous? De quelles machines, de quels outils vous disposez?
Donc, à BBV, on est une quarantaine de personnes qui regroupent. Donc, il y a des maîtres de conférences, il y a des doctorants, il y a des stagiaires parfois, il y a aussi des ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, des techniciens. Il y a beaucoup de monde. On est voilà une quarantaine et on a des thématiques donc autour des plantes. Donc, il y a une grosse thématique autour du développement en fait de procédés pour la production de molécules, par exemple anticancéreuses, qu'on retrouve dans certaines plantes. Moi, je suis plutôt sur une thématique du coup d'études d'extraits végétaux par des techniques. Donc au laboratoire, moi je travaille sur ces appareils-là, donc c'est des qu'on appelle des chromatographies liquides, appelées à la spectrométrie de masse. Donc, rapidement, bon, c'est un peu barbare, mais rapidement, la chromatographie liquide, le but, c'est on injecte un extrait donc, qui est complexe, il y a plusieurs dizaines de molécules à l'intérieur. On a une colonne, en fait, on injecte un extrait dans une colonne qui a une phase stationnaire, en fait, solide, et on injecte avec l'échantillon, on injecte une phase mobile qui est liquide. Et en fait, ces deux phases ont des affinités différentes. Les molécules contenues dans l'extrait vont avoir plutôt une affinité pour la phase stationnaire, plutôt une affinité pour la phase mobile liquide. Et donc, ça va nous permettre de séparer les molécules que l'on a dans notre échantillon. C'est important parce que sinon, elles arriveraient toutes en même temps devant le détecteur, donc on ne détecterait rien du tout. Puisqu'en fait, après cette étape de séparation des molécules, les unes par rapport aux autres selon leurs propriétés, on a deux types de détecteurs, bon, un détecteur UV, mais surtout donc un détecteur de masse, qu'on appelle spectromètre de masse. Le spectromètre de masse, il détecte du coup les masses de molécules. La masse d'une molécule, elle est reliée à sa formule chimique et aussi à sa forme, en fait, globalement. Et donc, ça nous donne, nous, des informations, du coup, sur la masse de la molécule et sur son affinité, par exemple, si elle préfère l'eau, si elle préfère, si elle est plutôt apolaire, du coup. Et nous, grâce soit à l'injection de standards de molécules, en fait, que l'on connaît déjà, ou avec la littérature scientifique, ça nous permet d'identifier les molécules que l'on a dans les extraits.
Donc, enfin, pardon, si pour résumer, c'est-à-dire vous prenez un extrait de plante, vous faites exprès de mettre d'autres produits pour le faire éclater, donc on va dire quelque chose de liquide, quelque chose peut-être de dur, donc, et en fait là on regarde, donc cet extrait il éclate et les molécules elles se dirigent.
C'est plus ou moins ça, en fait. Ouais. Les molécules, elles ont une affinité selon, en fait, leur forme, les atomes qui composent les molécules, s'il y a beaucoup de carbone ou au contraire, s'il y a beaucoup d'oxygène ou d'hydrogène, elles vont avoir plutôt une affinité pour l'eau ou plutôt une affinité pour un autre type de solvant qui est plus gras, entre guillemets. Et donc, ça nous permet de les séparer et après, avec des détecteurs, donc de détecter leurs caractéristiques. Et à ce moment-là, nous, avec des bases de données, la littérature, ou même avec des molécules comme on les connaît déjà, puisqu'il y a des molécules qui sont quand même que l'on retrouve dans beaucoup de plantes, ou dans la majorité des plantes. Donc on arrive au bout d'un moment à les connaître. On a aussi des standards, donc des molécules pures, en fait, on les a sous forme pure, et on retrouve en fait ces mêmes caractéristiques. Et ça nous permet d'identifier les molécules que l'on a dans l'extrait. C'est ça la caractérisation du coup de l'extrait.
Et alors une fois qu'on a cette photo ou cette carte d'identité de l'extrait, qu'est-ce que vous en faites? Une base de données, vous les archivez ou alors vous les testez avec d'autres produits pour voir, tiens là mes molécules elles aiment bien ce solvant-là comment vous...
Alors pas forcément tester avec d'autres types de produits parce que le but c'est vraiment justement d'avoir une carte d'identité un petit peu de l'extrait après en fait on a d'autres techniques pour étudier, donc après c'est plutôt la partie à visée cosmétique, donc étudier leurs certaines capacités que les extraits pourraient avoir. Ça après on peut essayer de les relier à leur quantité en molécules, puisqu'en fait on ne fait pas que détecter et identifier des molécules, on peut aussi quantifier les molécules qui sont contenues dans les extraits et choisir en fait des extraits qui pourraient paraître intéressants au développement après de formulation.
Et alors sur toutes ces... Donc vous faites la caractérisation de ces molécules, là on a eu cette carte d'identité. Et ensuite comment ça se passe pour faire une base de données? Est-ce que c'est là qu'interviennent par exemple les ingénieurs de recherche? Comment vous travaillez?
Alors moi, du coup, dans mon cas, sur mon sujet, on a travaillé sur ces machines-là. On est quatre en tout, donc on est une petite équipe, mais du coup, on travaille un petit peu tous ensemble, même sur la caractérisation des extraits. Je ne suis pas toute seule à travailler là-dessus. Et après, donc, les bases de données, en fait, on le fait aussi pareil, un petit peu tous ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe où chacun un peu amène sa pierre à l'édifice pour augmenter la base de données que l'on a au laboratoire. Donc ça nous permet d'augmenter un petit peu notre capacité après à venir identifier de manière plus routinière des molécules dans certaines plantes.
Alors ça demande sûrement une grande rigueur, c'est-à-dire si on est quatre personnes à travailler sur la même base de données.
Oui, c'est sûr. Alors, après, on a chacun un petit peu nos fichiers perso, on va dire, et puis... On partage quand même quand on trouve peut-être une nouvelle molécule ou au contraire on a une molécule, on pensait peut-être que c'était éventuellement celle-là et en fait non. Et ben on en parle aussi puisque donc on a une grosse thématique nous au laboratoire sur les polyphénols de la vigne. On travaille beaucoup sur la vigne et donc On est tous les quatre, en fait, régulièrement, on travaille sur la vigne aussi, donc on se partage les informations forcément.
Alors justement, pour nos auditeurs curieux qui n'auront peut-être jamais la chance de voir ces polyphénols de la vigne, est-ce que vous voudriez nous décrire à quoi ça ressemble? Donc quand vous avez cet extrait dans la machine, qu'est-ce que vous voyez en fait? Ça ressemble à quoi?
Alors, ça ressemble en fait à des pics. Ça fait, on a donc selon un temps défini, hein, selon le temps d'injection en fait de la manip, on a des pics en fait qui apparaissent sur un écran puisque les machines sont pilotées par ordinateur. On a des pics et nous en fait après. On vient, alors là, attention, c'est un petit peu barbare, mais on vient en fait faire une intégration des aires sous la courbe des pics. Alors, si vous avez des restes un petit peu des intégrations qu'on faisait au lycée, là, c'est un petit peu la même chose. En fait, ça nous permet en quelque sorte de connaître l'intensité d'une molécule. En général, à un pic, on associe une molécule. Alors, parfois, ça ne se passe pas comme ça du tout. On a. Sous un pic, on en a plusieurs, parce qu'elles sortent en même temps, qu'elles ont plus ou moins les mêmes propriétés. Donc après, il faudrait faire de la mise au point de méthode pour essayer de les séparer et tout ça. Mais voilà, c'est juste des pics qui sortent. Et nous, en fait, sous les pics, on a des données qu'on arrive à extraire avec des logiciels. Donc c'est pas très glamour comme ça à expliquer, mais... Voilà, au final, après, on arrive à trouver, du coup, un petit peu, comme vous disiez, la carte d'identité d'un extrait et connaître les molécules qui le composent.
Eh bien, Manon Ferrier, pardon, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette méridienne et on se retrouve tout de suite après pour parler plus en détail de votre thèse au laboratoire BBV, biomolécules et biotechnologie végétale à l'université de Tours. Du côté du parc Grandmont et on va écouter la Bendali Family, Allô, Allô. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson donc je me fais plaisir.
Allô, allô, téléphone, Habbaïna, téléphone. Allô, allô, téléphone, Habbaïna, téléphone. Allô, allô, Tillaïna, Rana, allô. Allô, allô, Tillaïna, Rana, قلوب وكوينا. Pardon, habibi, pardon, habibi, pardon, habibi, pardon. Allô, 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 téléphone, نحكي منحكي ومنسمع ليل نهار وما منشبع. Allô, allô, téléphone, Habbaïna, téléphone. Allô, allô, téléphone, téléphone, Habbaïna, téléphone. Allô, allô, Tillaïna, Rana, قلوب وكوينا. Allô, allô, Tillaïna, Rana, قلوب وكوينا.
Allô, allô,
Et voilà, bravo à la bande d'Ali Family. On ne boude pas son plaisir à écouter cette chanson Allô, Allô, qui sent bon les années 70, 78 pour être précis. Alors, de retour en studio avec mon invitée Manon Ferrier, doctorante au laboratoire BBV à l'Université de Tours. Voilà, donc vous nous expliquez que vous avez tout un temps de collecte de données, mais après, je suppose qu'il faut... Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Donc, comment ça se passe, vos temps de travail?
Donc, il y a une étape, en fait, où il faut préparer... Déjà, il faut préparer la plante. Donc, moi, dans mon cas, j'étudie des parties de plantes qui sont déjà... que l'on collecte en amont. Donc, comme je travaille sur la vigne, donc on va dans des conservatoires d'espèces de vignes. Et donc, on collecte, en fait, les différentes parties, feuilles, baies ou les tiges qu'on appelle sarments. Et donc, il faut les préparer, en faire de la poudre et après peser une quantité précise, faire donc l'extraction avec des solvants, donc ça après c'est des méthodes qu'on met au point, et donc on fait toute l'analyse de l'extrait avec, donc comme j'expliquais précédemment, les machines, et donc de là on ressort énormément de données. C'est un petit peu, faut débroussailler un petit peu toutes ces données, donc la manip, alors ça dépend un petit peu du nombre d'échantillons que je vais avoir, aussi si on fait des réplicas, donc si on fait passer plusieurs fois le même échantillon pour voir si les données sont reproductibles. Et après, donc quand je collecte tout ça, donc ça me prend à peu près, ça dépend hein, du nombre d'échantillons, ça peut prendre plusieurs jours, le passage sur la machine aussi peut prendre plusieurs jours, et ensuite c'est plusieurs semaines plutôt, voire plus, pour faire donc toute l'analyse de données, débroussailler les données et essayer un petit peu de tourner un petit peu dans tous les sens pour revoir des choses qui pourraient être intéressantes donc après pour les applications qu'on veut en faire.
Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail aussi de recherche sur ordinateur, voilà, que c'est, vous êtes des journées à rallonge.
Donc oui, il y a pas mal de travail d'ordinateur hein, du coup, puisqu'on travaille beaucoup avec des logiciels, donc des logiciels précis, et après on travaille aussi beaucoup avec Excel par exemple, ou avec des logiciels, on a beaucoup de statistiques, on fait beaucoup de statistiques, donc il y a aussi un peu de code parfois à faire. Donc c'est assez divers les activités qu'on peut faire, mais c'est vrai que j'ai un temps assez important devant l'ordinateur. Parfois on en a un peu marre, donc on peut aussi aller voir des collègues et puis leur demander s'ils ont besoin d'un coup de main sur des manips, etc. On peut aussi partager son temps, on n'est pas obligé de rester constamment devant l'ordinateur. Parfois il faut faire un petit peu une petite pause devant l'écran. Voilà. Mais il y a quand même un gros travail derrière l'ordinateur pour retraiter les données. Et puis après, quand on a donc des résultats pour les présenter aussi, il y a un travail de présentation aussi à faire sur l'ordinateur.
Voilà, alors peut-être c'est le moment de préciser que les journées des chercheurs sont longues et que c'est beaucoup de travail. Voilà, donc c'est à savoir peut-être pour les auditeurs étudiants qui nous écoutent et qui peut-être caresse l'espoir de faire une thèse, de se dire que c'est quand même beaucoup de travail.
La thèse aussi, c'est un projet professionnel, mais aussi personnel. Au bout, en fait, c'est 3 ans, c'est un petit peu... on est toujours étudiant d'un côté, on est aussi salarié de l'autre, donc il y a toujours un peu ce côté formation, en fait. C'est un peu comme si pendant 3 ans, on était formé à devenir chercheur, avec au bout donc un diplôme de doctorat. Donc, c'est aussi un investissement personnel. Donc évidemment, il faut que le sujet nous plaise entièrement, parce que sinon, c'est un peu plus difficile, je pense. Mais voilà, l'investissement personnel est assez important. Donc, toutes les journées ne se ressemblent pas. Il y a des journées qui peuvent être plus calmes ou des journées où, comme tout le monde, on est un peu moins productif. Mais voilà, c'est un investissement aussi qui est personnel au-delà de l'investissement avec l'équipe de chercheurs autour.
Voilà, donc ça, c'est, je pense que c'est intéressant de le faire savoir aussi. Et donc, j'aimerais revenir sur ces molécules, sur ces phytoactifs. Alors, peut-être une question bête, hein, mais tout à l'heure, vous mentionniez les extraits de vigne, les polyphénols de la vigne. Alors, comment on sait que tel extrait de plante a tel effet vous parliez de la littérature scientifique, mais il y a des extraits qui sont peut-être connus depuis très longtemps, mais qui les a identifiés ?
Alors, il y a donc effectivement donc tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, qui depuis des millénaires utilise donc des préparations à base de plantes pour soigner tout un tas de maux, des pharmacopées. Donc en fait, tout ça, c'est un petit peu l'étude des ethnobotanistes, on appelle. Donc ils étudient en fait l'utilisation donc des plantes par l'homme donc depuis des millénaires. À l'époque, on ne parlait pas donc de phytoactifs, de métabolites, de molécules ou même d'extraits. C'était vraiment des préparations de plantes pour soigner différents maux. Il y avait aussi ce qu'on appelle la théorie des signatures, avec par exemple des plantes qui pouvaient ressembler à différentes parties du corps, par exemple au poumon. Donc c'était des plantes qu'on utilisait pour soigner les maux autour des poumons. Par exemple, il y a le sol blanc qui est un arbre qui pousse les racines dans l'eau. Et donc, certains pensaient, ce qui était utilisé, les corps étaient utilisés pour soigner les maux de fièvre et les maux dus en fait à l'humidité, comme les rhumatismes, etc. Et effectivement, en fait, après analyse de cette écorce du sol blanc, ils ont trouvé de l'acide salicylique, qui est un précurseur pardon, de l'aspirine. Donc, il n'y avait pas que un petit peu des côtés un peu presque sorciers là-dedans. Ça fonctionnait aussi également. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui sont étudiées et donc qui sont après mentionnées dans la littérature, que ce soit par donc, des spécialistes, mais aussi par des chercheurs qui s'intéressent au sujet et qui après se disent « Tiens, cette plante, elle est utilisée depuis des millénaires. Bon, on va essayer de voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on l'utilise pour tel ou tel traitement ?»
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure aussi l'effet antioxydant de certains de ces éléments. Alors, peut-être, ça veut dire quoi, antioxydant ? Est-ce que c'est la crème antiride ? Voilà, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors, antioxydant, c'est très général comme terme. De base, notre corps, on produit des molécules qu'on dit oxydantes. Donc, c'est des molécules qui sont, on va dire, un peu méchantes. Elles vont avoir tendance à faire des effets un peu néfastes sur différentes parties donc de nos cellules. En fait, c'est au niveau cellulaire que ça se passe. Mais du coup, comme les cellules composent les tissus et donc les organes de notre corps, ça peut après avoir des effets plus globaux. Donc, en fait, le but d'un antioxydant, c'est de capturer en quelque sorte les molécules oxydantes et donc éviter leur effet négatif. Donc, au sein de notre corps, on a des mécanismes antioxydants qui existent. On a des petites machines quoi, qui permettent de les capturer. Mais parfois, ça ne suffit pas. Des fois, il y a un déséquilibre en fait, entre la balance oxydant et antioxydant. Ça peut être le cas, par exemple, la pollution, le stress, la mauvaise alimentation. C'est des facteurs qui peuvent favoriser l'apparition plus importante de molécules oxydantes dans le corps. Donc les antioxydants, ça peut être intéressant pour ça. En fait, ça vient vraiment capturer les molécules oxydantes.
Et donc là, quand on est dans le cadre de produits cosmétiques, donc des produits cosmétiques antioxydants, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors antioxydants, donc c'est pareil pour venir capturer les molécules oxydantes qui pourraient se trouver sur la peau, mais aussi, entre guillemets, dans la peau au niveau du derme. Donc, par exemple, la pollution peut avoir cet effet-là, mais aussi et surtout, les UV, l'exposition au soleil, produit énormément de molécules oxydantes. Ça fait aussi autre chose. Hein. Mais voilà, ces molécules oxydantes-là peuvent après venir un petit peu détruire la structure de la peau aussi, et donc favoriser en fait un vieillissement prématuré, hein, puisque le vieillissement de la peau, tout le monde l'aura, donc voilà, mais le prématuré peut être évité ou retardé. Voilà.
Donc l'idée, comment dire, c'est-à-dire que ces molécules sur lesquelles vous travaillez, ça peut être donc de protéger, par exemple, protéger la peau des UV, peut-être la protéger de la pollution.
Alors, les molécules sur lesquelles on travaille n'ont pas, comment dire, ce n'est pas leur vocation, ce n'est pas tellement protéger contre la pollution ou contre, c'est plus essayer de, comment dire. Oui, d'agir sur ce qui se passe dans la peau au moment de l'exposition, par exemple, aux UV. Bêtement, les UV donc, agissent sur différentes parties de la peau, des enzymes. Par exemple, quand on bronze, on a une production de mélanine. L'exposition trop importante ou trop répétée aux UV, sans protection solaire, va produire une forte va permettre une forte production de mélanine au niveau de la peau et qui, en fait, à plus ou moins long terme, va faire des taches de pigmentation qu'on appelle aussi parfois taches de vieillesse. En fait, c'est la production de mélanine qui s'emballe un petit peu. Donc, c'est purement esthétique quand on parle de taches de vieillissement, mais la production très importante de mélanine peut aussi provoquer la formation de mélanome. Et là, on n'est plus sur un côté esthétique, puisqu'on part après sur des cancers de la peau. Donc il faut... La barrière principale, c'est la protection du soleil. Après, on peut venir aider la peau à un petit peu se défendre et l'aider à garder un peu son intégrité, parce que la peau, c'est une de nos premières barrières avec le monde extérieur. Donc quand son intégrité est un petit peu mise à mal par les agressions extérieures, ça peut aussi être, entre guillemets, un danger.
Voilà, donc on comprend mieux comment fonctionnent les produits pour protéger la peau des UV. Mais alors, j'insiste avec ma crème anti-rides, parce que c'est quand même un des produits phares, je crois, dans les cosmétiques. Donc là, comment ça fonctionne? Quelle vertu d'une plante peut être intéressante pour cette gamme de produits-là?
Donc, quand on a donc la formation de rides, vient en fait de la dégradation de certaines molécules, certaines fibres que l'on a au niveau de la peau, surtout au niveau du derme, donc plutôt la peau en profondeur. Donc il y a le collagène, l'élastine, ce sont les deux fibres majoritaires qui constituent en fait au niveau du derme, donc c'est des fibres qui maintiennent la peau, on va dire, tirée, entre guillemets. Ces fibres, ce sont en fait des enzymes en fait qui produisent ces fibres au bout d'un certain âge les enzymes en fait produisent moins ces fibres, elles fatiguent on va dire un petit peu donc ça c'est naturel, mais les UV par exemple provoquent une dégradation de ces fibres. Donc demande aux enzymes, en fait, aux petites machines qui produisent ces molécules, de les produire plus souvent. Et donc du coup, fatigue plus vite. Et donc on a un relâchement de la peau qui est plus prématuré, etc. Donc en fait, un extrait de plante peut avoir... Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de rechercher, des extraits qui pourraient avoir une action pour éviter en fait l'action de molécules qui vont dégrader... les fibres de collagène ou les fibres ou l'élastine en fait pour donc qui aura un effet ce sera pas un effet tenseur mais éviter en fait l'apparition ou la dégradation des fibres qui maintiennent la peau.
Donc un effet préventif,
plutôt préventif. C'est compliqué. Après, c'est des effets sur le moment quand on a déjà des rides par exemple. Ça va être des effets qui seront temporaires. Mais avoir une ride qui apparaît et la faire disparaître, avec un cosmétique, faut pas... voilà, après, c'est des arguments marketing que des marques mettent en avant, mais derrière, il n'y a pas forcément vraiment l'effet escompté.
Voilà, donc c'est peut-être aussi intéressant d'expliquer à nos auditeurs que la cosmétique, c'est pas de la magie non plus.
Non, c'est pas de la magie. Le plus important, c'est la prévention. Donc, la meilleure des préventions, c'est la crème solaire dans le cas des UV. Et de prendre soin de sa peau, de pas trop l'agresser, d'éviter en fait des activités agressives ou en prendre soin. C'est la prévention qui permettra tout ça, parce que une fois que c'est fait, à part le recours à la médecine esthétique, il n'y a pas trop moyen de revenir en arrière avec des cosmétiques. Surtout qu'il faut quand même préciser que un cosmétique, pour qu'il vienne agir, il faut que les principes actifs rentrent, passent la barrière, passent l'épiderme, en fait, qui est une barrière du coup assez importante, puisqu'elle est censée nous éviter de perdre tout notre eau. Donc il faut que les molécules arrivent à rentrer. Donc c'est aussi des propriétés sur lesquelles on fait des recherches, parce que un produit, il y en a des produits qui sont développés avec des molécules qui ne passent pas la barrière de la peau. Bon, il y a des molécules qui peuvent avoir des effets sur l'épiderme aussi, et ça peut être très intéressant, mais pour vraiment agir en profondeur, il faut que les molécules, les principes actifs, puissent passer cette barrière.
Et donc, vous avez parlé du fait que la peau est là aussi pour maintenir l'eau, qu'on ne la perde pas en chemin. Justement, une propriété de plante qui permettrait de garder l'eau, est-ce que ça, c'est intéressant aussi?
Alors, je ne sais pas si ça, plus ou moins, si ça existe, de garder l'eau, c'est un petit peu compliqué, mais plutôt de maintenir l'intégrité de l'épiderme, ça, oui. Après... Donc, maintenir cette hydratation, il y a quand même des extraits de plantes qui ont la capacité de favoriser la production, par exemple, d'acide hyaluronique, qui est un petit peu la molécule phare pour tout ce qui est hydratation de la peau, de l'épiderme ou du derme. Acide hyaluronique qui peut aussi être dégradé par tout un tas de choses et qui est un petit peu la molécule de l'hydratation, quoi.
Et donc ça, on en trouve dans quelles plantes, par exemple ?
De l'acide hyaluronique. Alors, au niveau des plantes, je ne sais pas. En fait, nous, c'est plutôt, on cherche des plantes qui vont éviter la dégradation de l'acide hyaluronique ou vont permettre de le garder dans le derme. Voilà. Après, il y a, oui, des plantes. Par exemple, c'est le seul exemple qui me vient en tête, c'est l'aloe vera, le gel d'aloe vera qui en contient. Voilà.
Et donc, il me semble aussi que sur ce projet de thèse, il était question de chimie verte et de cadre éco-responsable de recherche. Alors, est-ce que vous voudriez nous en dire plus ?
Donc, la chimie verte, c'est très vaste. Donc, en soi, la chimie verte, il y a 12 principes donc, qui s'appliquent vraiment à toute la chimie. Donc, moi, j'ai vraiment qu'un petit côté, et c'est très appliqué. Donc, la phytochimie, c'est très appliqué au végétal. Mais nous, par exemple, dans notre cas, la chimie verte, ça va s'appliquer dans les solvants que l'on utilise, par exemple, pour l'extraction des molécules. Donc, utiliser des solvants plutôt verts. Donc, il y a l'eau. Il y a l'éthanol aussi, qui est un solvant vert. Donc, nous, c'est un solvant qu'on utilise assez régulièrement pour venir récupérer les molécules dans les plantes. Parce qu'il y a beaucoup de solvants aussi qui sont issus, par exemple, de la pétrochimie. Là, ce ne sont pas des solvants verts. Il y a aussi, en fait, les méthodes d'extraction. Si on utilise beaucoup de chaleur, si on utilise beaucoup d'énergie, ce genre de choses, c'est pas considéré vraiment comme vert, puisqu'il y a un coût important. Mais aussi, c'est la production de déchets. Dans beaucoup de domaine de la chimie, il y a une production de déchets parfois qui est très importante, même plus importante que la production d'actifs faits. Donc le but, c'est aussi donc déjà d'éviter la production de déchets trop importants, mais aussi de valoriser des déchets d'autres industries, donc faire une sorte d'économie un petit peu circulaire. Par exemple, dans notre cas, les sarments de vigne, sont taillés tous les ans vers le mois de janvier, février. Et donc, une partie peut être revalorisée, par exemple pour les bois de chauffage, etc. Mais il y a une très grosse partie qui n'est pas valorisée. C'est quand même une pollution importante. il y a quelques années, parfois ils étaient brûlés au niveau des champs de vigne, par exemple l'hiver, pour éviter de geler en fait les plants qui sont en train de pousser. C'est de plus en plus évité, en tout cas un petit peu interdit dans certaines régions, parce que ça, c'est aussi une production de pollution. Nous, dans ces tiges qui sont éliminées, les sarments, on retrouve beaucoup de molécules actives. Donc en fait, on peut venir utiliser dans l'industrie, il y a des industriels qui utilisent du coup ces déchets, ces parties de plantes considérées comme des déchets dans la viticulture, comme matière première pour produire des principes actifs ou des cosmétiques ou aussi des pesticides, mais du coup biologiques, voilà.
Et ça, c'est un argument qui vous a particulièrement intéressé, ce cadre de chimie verte et de projet éco-responsable ?
Bah, c'est important parce que justement, voilà, le cadre éco-responsable, à mon sens, c'est faire de la recherche en ayant conscience des enjeux, des défis de la société et des défis prochains. Donc évidemment, je pense que tout le monde en a... Enfin, j'espère que tout le monde en a conscience que la réduction de la pollution est un défi majeur. Donc c'est pour moi aujourd'hui c'est primordial. Enfin, je veux dire, je pense que faire un projet de recherche sans incorporer des principes de la chimie verte et une certaine éco-responsabilité, ça devrait pas être fait. Il faut quand même garder en tête tous les enjeux que tout le monde a à faire face en fait dans les prochaines années. Donc c'était, oui, pour moi, très important qu'il y ait en fait quand même ces enjeux de chimie verte et de cadre éco-responsable, économie circulaire, etc.
Il y a une autre chose dont nous n'avons pas encore parlé, c'est Cosmétosciences, donc un des 5 programmes Ambition Recherche Développement Centre-Val de Loire, financé par la région Centre-Val de Loire. Et donc je crois que peu ou prou, le projet sur lequel vous travaillez est en lien avec cette entité.
C'est ça. Donc mon projet de recherche en thèse, en fait, est dans un projet un peu plus général. Donc c'est le projet qui s'appelle InnoCosme, donc financé par Cosmétosciences. Donc c'est le projet en fait a pour but d'obtenir en fait de développer plutôt des nouvelles voies d'obtention de phytoactifs à visée cosmétique. Donc pour ça, il y avait en fait un petit peu deux ambitions. D'un côté, ben, la revalorisation de déchets de différentes industries. Donc comme j'ai parlé juste précédemment, la revalorisation par exemple des déchets de la viticulture. Et d'un autre côté, l'utilisation donc de biotechnologie pour produire de la matière première, pour après faire donc des extraits à visée cosmétique. Donc des biotechnologies, en fait, c'est faire de la culture de plantes, mais en laboratoire. Donc dans un système complètement fermé, hermétique et stérile, on peut faire pousser donc des plantes vignes dans notre cas, donc qui sont tout petits, mais ce sont quand même des plantes vignes donc en ce qu'on appelle des bioréacteurs. Ça permet, alors d'un côté, ça permet aussi de sécuriser la voie d'obtention des matières premières. Ça permet une certaine traçabilité aussi. Et donc, quand on a par exemple des plantes, des fois il y a des plantes qui sont coûteuses à faire pousser ou qui peuvent être, à faire pousser, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas faire pousser par exemple dans certains milieux. On peut se tourner vers ce type de culture, donc on appelle des cultures in vitro, faire pousser donc, que ce soit des plants carrément, mais aussi juste faire de la culture de cellules, par exemple de cellules de baies de raisin ou de cellules de feuilles de je ne sais quelle autre plante. On a la possibilité après de leur faire produire des molécules intéressantes et donc tout ça, de le valoriser après donc, en extrait de cellules de culture in vitro, puis ces extraits peuvent rentrer en formulation cosmétique.
Eh bien, merci Manon Ferrier. Je vous propose de faire une seconde pause musicale dans cette émission La Méridienne. Et on se retrouve tout de suite après. Alors là, on va se tourner du côté du label Habibi Funk et on va écouter une chanson qui date des années 70. Et oui, on y reste. Cette fois-ci, on s'en va en Algérie, on va écouter Zora. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours 99.5 FM. fêter Zora sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité en studio aujourd'hui, c'est Manon Ferrier. Vous êtes doctorante, donc on peut peut-être rappeler que vos travaux de thèse sont liés au projet InnoCosme et vous travaillez sur l'obtention de phytoactifs à visée cosmétique. C'est une recherche que vous menez au laboratoire BBV de l'Université de Tours, biomolécules et biotechnologies végétales. Alors une thèse, c'est 3 ans en principe. Alors que va-t-il se passer pour vous après cet énorme travail de thèse?
Un petit peu de repos. Non, j'ai de la chance parce que j'ai un sujet qui mêle à la fois la recherche de un petit peu de exploratoire, donc de données un peu vraiment pour mieux connaître certains cépages de vignes. Mais d'un autre côté, j'ai aussi un petit peu le développement, une part de développement de méthodes et aussi une part du coup de développement d'actifs et peut-être de formulations. Donc je ne me ferme pas tellement de portes. Je pourrais, après ma thèse, très bien continuer dans la recherche publique, sur des projets similaires ou autres, avec toujours... que j'ai envie de faire, c'est surtout travailler sur les équipements sur lesquels je travaille déjà. Mais je peux aussi me tourner plus vers de l'industrie ou de la recherche et développement privé, que ce soit directement en cosmétique ou pas, hein, parce que j'ai à la base plutôt une formation en complément alimentaire qu'en cosmétique.
Voilà, donc plein de possibilités s'ouvriront à vous. Et je crois que vous avez un intérêt aussi pour les actions de médiation. Là, vous m'aviez parlé de webinaires.
Tout à fait. Donc, au laboratoire BBV, on fait partie en fait, d'un réseau national qui s'appelle le réseau MetaSP. Donc, c'est un réseau qui regroupe, au niveau de la France, plusieurs laboratoires qui travaillent sur des thématiques similaires. Donc, l'étude... C'est beaucoup l'étude de plantes, mais on va retrouver aussi l'étude de champignons, l'étude d'algues également. Donc ce réseau, en général, se réunit une fois par an, à la semaine prochaine que nous allons nous réunir, pour un petit peu parler donc, des différentes recherches que chacun fait. On a aussi des plantes en commun, il y en a un certain nombre qui travaillent sur la vigne, par exemple. C'est une plante qu'on trouve beaucoup en France, donc c'est normal. Mais donc pour ce réseau, avec donc on est en tout 8 doctorants, on anime en fait des webinaires tous les mois, donc un petit peu à destination de chercheurs, de jeunes chercheurs, mais aussi d'étudiants, donc de tout un tas, d'un public assez large, qui s'intéresse donc à l'étude des plantes et peut-être à la valorisation aussi des plantes. Donc on fait intervenir des chercheurs de différentes universités, on fait aussi intervenir des entreprises tous les mois, tous les premiers mercredis du mois très exactement, donc sur différents formats, on peut avoir des tables rondes, on peut avoir plutôt des conférences, etc. Et donc ces webinaires, la plupart du temps sont enregistrés puisqu'on fait ce sont des webinaires sur Zoom par exemple. Donc ils sont enregistrés pour la plupart quand il n'y a pas de problème de confidentialité et on les diffuse sur une chaîne YouTube que l'on a depuis quelques mois, qui s'appelle MetaSP en herbe, parce que ce sont des jeunes chercheurs qui en devenir qui animent ces webinaires. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller à taper dans YouTube MetaSP en herbe et vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi nous contacter. Il y a également un site internet pour le réseau MetaSP. Vous pouvez aussi aller sur le site internet du laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales. Et si vraiment le monde des cosmétiques vous intéresse ou la recherche autour des cosmétiques vous intéresse, il y a donc le site de Cosmétosciences qui est vraiment très intéressant, donc regroupe du coup, enfin qui fait un petit peu un répertoire des projets qui sont en cours dans la région Centre-Val de Loire autour des cosmétiques, puisque c'est très dynamique dans ce domaine-là, donc au niveau cosmétique, avec souvent qui mêle un petit peu recherche académique avec donc des acteurs académiques et aussi des acteurs plutôt du privé. Mais également donc, à Cosmétosciences, ils proposent aussi des formations, que ce soit plus pour professionnels mais aussi pour les étudiants. Ils mettent en ligne des offres de stage, des offres de thèse aussi, quand il y en a, des offres d'emploi. Et voilà, ils ont différentes structures. Je pense notamment à WeLab Cosmétiques qui accueille régulièrement des stagiaires. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir là-dessus.
Et alors, peut-être avez-vous d'autres conseils en termes de vidéos, de podcasts ou de références bibliographiques que vous aimeriez mentionner à nos auditeurs ?
Alors, au niveau références bibliographiques, c'est vrai que dans notre domaine, tout est en anglais. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur, par exemple, tout bêtement, Google Scholar et... à rentrer en anglais, hein, c'est mieux. Des mots-clés qui vous intéressent, cosmétiques, plantes cosmétiques ou plantes extract ou ce genre de choses, et vous allez trouver une myriade d'articles scientifiques ou de revues de la littérature qui vous permettront un petit peu d'en savoir un peu plus sur le sujet si ça vous intéresse.
Et alors peut-être, voulez-vous saluer vos directeurs de thèse ?
Évidemment, je salue tout le monde à BBV qui pourrait peut-être m'écouter. Évidemment, je remercie donc mes directeurs de thèse, Nathalie Guivarch et Arnaud Lanoux, qui m'accompagnent au quotidien dans ce projet intense de thèse, mais aussi du coup la région Centre-Val de Loire et l'organisme Cosmétosciences pour... notamment l'opportunité de passer à la radio aujourd'hui.
Voilà, et bien merci à vous Manon Ferrier d'avoir accordé ce temps à cette émission. Et on sait que quand on est chercheur, le temps est une denrée précieuse. Voilà, donc je rappelle que cette émission sera à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. On pourra évidemment y mettre le lien vers la chaîne YouTube dont vous nous parliez. Et quant à moi, je ne résiste pas au fait de saluer l'émission Reggae Stories qui va fêter bientôt ses 15 ans. Voilà, émission dédiée au reggae à retrouver le jeudi soir sur nos ondes après une autre émission mythique de la radio, Plan Séquence, émission de cinéma. Voilà, je salue Pierre et Amaury, voilà, les deux acteurs de cette émission reggae à écouter aussi en podcast sur notre site. Et on va se quitter en écoutant un nouveau titre à retrouver chez le label Habibi Funk. Cette fois-ci, on va au Liban. On est en 1976. Bah oui, j'ai fait une playlist années 70. Aujourd'hui, on va écouter Issam Ajali. Et voilà, il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible à l'écoute de nos excellents programmes, évidemment.
عنق على السكين يا وطني ولكني أقول لك انتظرني ويا دايا خلف الظهر مقيدة ولكني أغني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني عنقي على السكين يا وطني ولكني أقول لك انتظرني ظهري مقيدة ولكني أغني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني